d'un soleil tiède et serein. Une vie marche devant moi dans la lumière d'aujourd'hui. J'ai dans ma main ses petits doigts et sa frimousse est épanouie. Il faudra bien de l'avenir pour cet amour qui ne sait rien. Rien que des joies et du sourire, un peu de paix dans le matin. Et dans mes mains, j'ai réchauffé les pieds du vieux républicain. Couché au bord des Pyrénées, sous un soleil tiède et serein.
Marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignon, quelques douzaines de gaillardes se crêpaient un jour le chignon. À pied, à cheval, en voiture, les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées. Or, sous tous les cieux sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies perdant toute mesure se ruèrent sur les guignols et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle à ces croquignoles. En voyant ces braves Pandores être à deux doigts de succomber, moi je bichais car je les adore sous la forme de Maccabée. De la mansarde où je réside, j'excitais les farouches bras des mégères gendarmicides en criant hippipipoura. Frénétique, l'une d'elles attache le vieux maréchal des logis et lui fait crier mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie. Une autre fourre avec rudesse le crâne d'un de ses lourdeaux entre ses gigantesques fesses qu'elle serre comme un étau. La plus grasse de ses femelles, ouvrant son corsage dilaté, matraque à grands coups de mamelle ceux qui passent à sa portée. Il tombe, 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 et selon les avis compétents, il paraît que cette hécatombe fut la plus belle de tous les temps. Jugeant enfin que leur victime avait eu leur compte en deniers, ces furies comme outrage ultime en retournant à leurs oignons. Ces furies, à peine si j'ose le dire tellement c'est bas, leur auraient même coupé les choses. Par bonheur ils n'en avaient pas. Leur auraient même coupé les choses. Par bonheur ils n'en avaient pas.
Radio Libertaire 89 ou 89.4, comme on dit en Suisse.
Radio Libertaria 89.4 FM, Radio de la Fédération Anarchiste.
Slušajte Slobodarski radio na 89,4 Radio Bez Boga i Gospodara.
Radio Libertaria 89,4 FM.
Radio Libertaire 89.4, The Radio Without God or Master.
Slušajte Slobodarski radio na 89,4 Radio Bez Boga i Gospodara.
Radio Libertaria, o Radio Liberté, 89.4 FM.
Slušajte Slobodarski radio na 89,4 FM, Radio Bez Boga i Bez Gospodara.
Radio Libertaria, 89,4 FM.
Radio Libertaria, 89.4 FM.
Radio Libertaria, 89.4.
Radio Libertaria, 89.4 FM.
Radio
Libertaria, 89.4.
Radio Tahariri, 89.4.
Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité.
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont.
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h, nous sommes le mercredi 27 septembre 2023. Vous écoutez Au fil des pages sur Radio Libertaire, c'est un plaisir de vous retrouver en direct. Merci de nous rejoindre et eh bien aujourd'hui, Frédéric, Marie, Dominique, Francis et notre invitée Isabelle Felici pour parler du livre qu'elle a coordonné intitulé « Brassens anarchiste » paru aux éditions Atlande. On lit, on lutte encore et toujours. Avant de parler de nos lectures, Frédéric, est-ce que nous avons des annonces ? Non, pas d'annonce de ton côté. Alors, du mien, eh bien, la fête du livre organisée par les éditions Noir et Rouge, comme tous les ans, a lieu le samedi 30 septembre de 10h à 18h et le dimanche 1er octobre de 11h à 16h. Des milliers de livres neufs, de la BD, des romans, des essais, des ouvrages parfois rares, épuisés, tout ça a pris d'occasion. Pour vous rendre à cette fête du livre, eh bien tout simplement 8 impasse Crozatier, Paris 12e, c'est au métro Faidherbe Chaligny, ligne 8 du métro parisien. En plus de nous écouter, vous pouvez, comme d'habitude, nous écrire Librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e. Au programme de cette émission, eh bien, un livre de Philippe Mérieux, un peu sous forme de pamphlet, qui veut encore des profs. Nous reparlerons de Matteo Garcia Elizondo, dernier rendez-vous avec la Lady chez Maurice Nadeau. Florent Bussy, William Morris et la vie belle et créatrice. Frédéric nous parlera du syndrome du patron de gauche. Notre échange avec Isabelle. Et puis, dans un dernier temps de notre émission, M-Arquette, les origines du 1er mai, les larmes de Chalamov, que Dominique va pouvoir nous présenter, et Belle de mai, un roman qui se déroule à Marseille. Alors, Marie, est-ce que tu peux démarrer là ?
Oui.
Bon, alors, donc tu nous parles d'un livre sur un phénomène connu, la difficulté de recruter des enseignants. Alors, l'auteur, Philippe Mérieux, est un spécialiste de l'éducation, mais c'est un cri qui retentit dans une collection des éditions du Seuil, Libelle, historiquement, donc des petits textes incisifs. Alors que développe Philippe Mérieux dans ce petit livre ?
Alors, Philippe Mérieux nous livre en fait son point de vue pragmatique sur les rapports entre l'éducation nationale et ses professeurs et la manière dont ces derniers sont perçus auprès des parents d'élèves. Ainsi, une sorte d'état des lieux de l'institution est fait et ne peut que nous laisser perplexes quant aux différentes politiques menées ces dernières années visant prétendument à donner de l'attractivité au métier d'enseignant, mais qui finalement ne permettent pas de solutionner la problématique du manque de professeurs de manière pérenne. Nous l'avons bien constaté d'ailleurs au début du mois de septembre avec Gabriel Attal qui, fraîchement nommé au ministère de l'Éducation nationale, a déjà des velléités d'expérimenter le port de l'uniforme à l'école, alors qu'il n'y a toujours pas un enseignant devant chaque classe en cette rentrée 2023. Comme le démontre bien l'auteur au début de l'ouvrage, le métier d'enseignant essuie continuellement de vives critiques qui jaillissent de part et d'autre, bien souvent en provenance de parents insatisfaits ou même de technocrates qui n'ont généralement pas la moindre idée des aléas du métier, mais le mythe du bon petit fonctionnaire qui a des horaires confortables, un salaire non négligeable, la sécurité de l'emploi et 2 mois de vacances l'été pour les profs est bien ancré dans notre société, qui se rappelle d'ailleurs avoir déjà eu un prof dire « Oh, mais de toute façon, que vous réussissiez ou pas, mon salaire sera le même à la fin du mois. » Moi, c'est déjà ce que j'ai entendu de la part de profs de maths, d'histoire ou de français blasés des 30 années de métier qu'ils avaient derrière eux. Donc, le corps enseignant n'est pas constitué de fumistes qui attendent leur jour de paye perpétuellement, mais plutôt d'un bon nombre d'optimistes, voire d'utopistes, qui ont imaginé pouvoir intégrer un système progressiste où leurs idées et leurs projets seraient respectés. Ils ne pensaient sans doute pas se retrouver confrontés aux rouages infernaux d'une administration défaillante qui propose des réformes aussi insatisfaisantes et insignifiantes les unes que les autres. L'intégration du numérique aux méthodes pédagogiques sous réserve que les départements qui en ont le budget puissent financer des tablettes tactiles pour toutes les écoles, le fameux job dating qui a tant fait parler l'année dernière, visant à recruter des enseignants improvisés au pied levé. Comment ne pas y voir, lorsqu'on fait partie du corps professoral, une forme de mépris pour la profession, doublée d'une certaine provocation vis-à-vis des enseignants, mais également de leurs élèves. Et Philippe Mérieux démontre bien que l'ère de l'école républicaine et méritocratique à la Jules Ferry laisse progressivement place à celle de la libéralisation du modèle éducatif français, un moyen de démanteler la fonction publique encore un peu plus d'ailleurs. Hein. Et de ce point de vue-là, la droite peut savourer sa victoire. De cette manière, l'école, dans une logique purement libérale, doit produire de résultats. Telle une entreprise se doit de faire du chiffre d'affaires, creusant ainsi les inégalités sociales et spatiales dans les quartiers, les communes, les départements, au détriment bien sûr des élèves.
Mais alors, on va vers de plus en plus de bureaucratie, on va vers des technologies qui renforcent les inégalités,
oui,
parce que quand on est dans un département comme le 92, ben on a un peu plus de moyens,
oui,
que lorsqu'on est dans un département rural qui a moins de ressources,
bien
ou
sûr,
qui a d'autres problèmes, et je pense notamment aux questions sociales. On a des départements,
oui,
qui sont submergés par les problèmes sociaux,
oui,
la Seine-Saint-Denis, mais pas que, le monde rural.
Les zones d'éducation prioritaires, bien
voilà,
sûr. Hein. Il y a vraiment une fracture sociale qui est démontrée.
Mmh.
Et en fait, Philippe Mérieux, il démontre bien, en fait, à la fin de son ouvrage, qu'il faut en fait arrêter ce modèle libéral de l'école où en fait tout le monde est en compétition, tout le monde est de plus en plus individualiste. Et en fait, il faut pouvoir retourner à un modèle où l'école est un lieu de savoir. Voilà, de diffusion du savoir et non pas ce petit entre-soi.
Est-ce qu'il donne quelques pistes ou bien c'est dans un autre ouvrage, ça ? Là, c'est
dénonciation.
Bah,
en fait, clairement, oui, c'est une dénonciation. Et puis, en fait, c'est tout le système éducatif français qu'il faut réformer. Voilà, il faut mettre en place les moyens nécessaires, les structures adaptées. Voilà, limiter le nombre d'élèves par classe, hein, parce que 30-35 élèves par classe, c'est clairement insurmontable, hein, pour la plupart des profs. Voilà, donc pallier à l'absentéisme, mais non pas avec des contractuels, mais avec des vrais profs qui ont la vraie vocation d'enseigner. Et ça, c'est très très important et c'est très bien souligné dans ce livre.
Or, on constate que depuis la rentrée, eh bien, d'ailleurs, il y avait un dessin assez satirique dans Le Monde qui disait, alors, des journalistes qui posait la question à Attal, alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année ? Eh bien, le fait que je sois ministre. Bon,
voilà.
L'essentiel était là, le reste, bon. Tu nous donnes les références du livre, alors ?
Oui, tout à fait. Donc, « Qui veut encore des professeurs ?» de Philippe Mérieux, aux éditions Seuil Libelle, est paru en août 2023.
Et nous allons passer une chanson, oh là là, bien vieillotte, d'Hugo Frey, « Adieu, monsieur le professeur ». Un extrait, en tout cas.
Il ne montera plus. Adieu, monsieur le professeur, on ne vous oubliera jamais. Et tout au fond de notre cœur, ces mots sont écrits à la craie. Nous vous offrons ces cœurs.
Alors, nous retrouvons, et oui, adieu monsieur le professeur, ça ne nous rajeunit pas. Bon, poursuivons. Nous avions commis une erreur il y a 15 jours en présentant le livre de Matteo Garcia Elizondo, Dernier rendez-vous avec la Lady aux éditions Maurice Nadeau de publier cette année. Il en était fort mari. En effet, il est le petit-fils du romancier colombien Gabriel Marcia Garcia Marquez, et non pas un autre nom. L'erreur est relevée, elle est corrigée, et comme nous avons connu de nombreuses difficultés lors de cette émission, nous allons passer dans un instant, mais pas tout de suite, la chanson que je souhaitais vous faire écouter, la chanson de Léo Ferré, La Beauté. Mais tout d'abord, je voudrais, puisque nous sommes là dans cette phase de réflexion sur l'art, sur la beauté, il n'y a pas que des questions strictement politiques, ou alors est-ce que l'art fait partie de la politique? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Nous connaissons davantage William Morris comme le grand inspirateur du mouvement Art and Craft. Ce mouvement était une tendance internationale dans les arts décoratifs et les beaux-arts qui s'est développée le plus tôt et le plus complètement dans les îles britanniques et s'est ensuite répandue dans tout l'Empire et dans le reste de l'Europe et de l'Amérique. Pourtant, il fut l'un des premiers, il n'y a pas que cela, il fut l'un des premiers à dénoncer les contradictions internes du capitalisme et les effets destructeurs de l'industrialisme. Notamment le gaspillage, l'aliénation des individus. Né en 1834, décédé en 1896, ses origines aisées ne vont pas en faire un défenseur du capitalisme. Au contraire, on pourrait le ranger chez ces socialistes utopiques, pour reprendre l'adjectif méprisant que Marx et Engels utilisaient pour qualifier tout penseur non marxiste. Les éditions Le Passager clandestin nous livre un petit opuscule intitulé « William Morris et la vie belle et créatrice » qui, après une introduction rédigée par Florent Bussy, propose une sélection de textes issus notamment de son chef-d'œuvre « Nouvelle de nulle part ». « Nouvelle de nulle part », c'est une utopie londonienne d'une société fondée sur la gratuité, la coopération, la convivialité et l'égalité. Un succès immédiat, édité dans 8 langues. Alors je trouve que c'est intéressant parce que les éditions Le Passager clandestin ont l'habitude de nous livrer ce type d'ouvrage. Nous avions présenté il y a quelque temps le livre consacré à George Orwell et la vie ordinaire. Eh bien là, on insiste beaucoup sur cette vie belle et créatrice. Bon, toute la pensée est avec des textes. Voilà. Tout, après, à chacun d'entre nous d'aller sur les livres en intégrale. Toute la pensée de Maurice repose sur l'idée qu'il faut réveiller les imaginations et mobiliser les forces révolutionnaires en montrant la possibilité d'un avenir commun désirable. C'est la classe ouvrière qui doit se mobiliser et Maurice multipliera les ouvrages, les conférences via le mouvement Socialist League pour inviter à la prise de conscience. Il milite pour la beauté. C'est elle qui doit donner du sens à l'existence. Il appelle à la convivialité, à l'épanouissement personnel, à l'émancipation collective, grâce à la réappropriation des activités créatrices. Je trouve ça d'une modernité totale. Tapissier, il conçoit plus de 600 motifs de tissu, de papier peint, encore reconnus pour leur grande beauté végétale. Un côté Art Nouveau et École de Nancy, vous voyez. Il sera aussi fasciné par le style gothique des cathédrales lors d'un voyage en France. Vous voyez, il met en pratique. Et militant, il cherche des solutions concrètes pour que la classe ouvrière sorte de la misère et de la laideur urbaine, même s'il n'a jamais fait partie des chefs du mouvement ouvrier. Il critique la civilisation moderne sans tomber dans la nostalgie d'un jardin d'Éden. Je voudrais vous lire un court extrait dans cet ouvrage consacré à la richesse. Quelle richesse peut-on espérer? La richesse, c'est ce que la nature nous prodigue, dit-il. C'est ce qu'un homme raisonnable peut fabriquer pour son usage raisonnable.
avec ses dons de la nature, la lumière du soleil, l'air pur, la surface préservée de la terre, la nourriture, le vêtement, le logement, dans la mesure du nécessaire et du décent. La conservation de toutes les formes de savoir, la faculté de les diffuser, les instruments d'une communication libre entre êtres humains, les œuvres d'art, la beauté que l'homme crée quand il est véritablement homme, volontaire et réfléchi, toutes choses qui participent au plaisir de gens libres, courageux et sains. Voilà la richesse. Dans l'expression et dans ce rapport à la beauté, ce rapport à la beauté et à la nature, il nous renvoie à quelqu'un qu'on aime beaucoup dans cette émission, Élisée Reclus. Et vraiment, je vous rappelle le titre de ce petit livre qui vous ouvrira sur d'autres textes. William Morris et la vie belle et créatrice aux éditions Le Passager clandestin 2023 a signalé que c'est une scope et c'est dans la collection Précurseur de la décroissance. Parlons beauté avec Léo Ferré qui chante Baudelaire.
Je suis belle ô mortel comme un rêve de pierre. Et mon sein où chacun s'est meurtri tour à tour est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet ainsi que la matière. Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris. De neige à la blancheur des cygnes. Je hais le mouvement qui déplace les lignes. Et jamais je ne pleure, et jamais je ne ris. Les poètes devant mes grandes attitudes. Que j'ai l'air d'emprunter au plus fier monument, consumeront leurs jours en d'austères études, car j'ai pour fasciner ces dociles amants. Aux clartés éternelles.
Alors, dans notre première partie, pour alimenter le débat, on va aborder une question avec Frédéric. Est-ce que ça existe un patron de gauche? Alors, les éditions Hors d'atteinte, que nous aimons beaucoup, qui nous ont envoyé d'ailleurs récemment un livre dont nous parlerons plus tard, consacré à la justice et la police, eh bien, les éditions Hors d'atteinte posent la question. Frédéric, que peut-on en penser, nous?
Eh bien, le syndrome de gauche, ou le manuel d'anti-management. Alors, le syndrome du patron de gauche existe-t-il? Vaste question. Le patron de gauche existe-t-il lui aussi? Si oui, comment se comporte-t-il? Que fait-il? Dans quel genre d'entreprise est-il? Dans des associations? Des partis politiques? Une longue liste de questions en effet. Ce livre répondra à ces questions. L'auteur a finement analysé ce syndrome, ses pratiques, paroles, agissements, techniques de management, dans la démarche d'entretien enquête auprès de 70 personnes salariées dans des entreprises dirigées par une patronne ou un patron de gauche. L'auteur lui-même ayant travaillé dans une telle entreprise ce qui ne lui a pas laissé un souvenir très agréable. Des témoignages édifiants sur ce qui se passe dans ce type d'entreprise, d'association, de parti, sans non plus vous donner le contenu. Des témoignages, ils sont très instructifs sur le management des patrons et des patronnes de gauche. Le monde de l'entreprise, qu'il soit de droite, de gauche, du centre, d'un extrême ou d'un autre, est basé sur la domination, la productivité. L'histoire nous l'a prouvé dans tous les systèmes étatiques, quels qu'ils soient, et sur tous les endroits de la map-monde. Vous y découvrirez les stratégies et discours pernicieux pour justifier certaines pratiques, très loin des valeurs de gauche, aussi vaches que dans une entreprise défendant les valeurs capitalistes, mais usant d'un discours différent, tout aussi redoutable, de la même veine que « on ne compte pas 16 heures supplémentaires pour une cause ». Dans le titre, le manuel d'anti-management, il s'agit d'un chapitre de moyens, voire les outils légaux du droit du travail dont vous disposez pour contrer le management de gauche. Un bonus, test, mon employeur souffre-t-il du syndrome du patron de gauche ? Une conclusion qui m'a réjoui, qui s'appelle « Syndiquons-nous ». Pour ma part, j'ai aimé ce livre, tout en pensant néanmoins que les réformes ne sont pas suffisantes et que seule une société sans patronne et sans patron, une société autogérée, serait à même de faire voler en éclats beaucoup de problèmes. Vous pouvez commander ce livre à Publico, à la librairie Publico. Donc, je vous rappelle le titre, « Le syndrome du patron de gauche, manuel d'anti-management, 207 pages, l'auteur Arthur Bromereau, édition hors d'atteinte, 10-22, et le prix est de 19 euros.
Alors, Frédéric, c'est vrai que moi j'ai connu ces patrons de gauche là, tu comprends, c'est pour la cause, oui mais il faut que tu viennes plus tôt parce que c'est pour le parti, alors c'est pour le parti, c'est pour la cause, c'est pour les idées, c'est pour tout ce qu'on veut, et bah c'est une forme d'exploitation, même si on est rémunéré, d'ailleurs bah tu comprends, on peut pas, on fait des efforts donc on peut pas te rémunérer autant parce que c'est pour le parti. Donc vraiment la notion de patron de gauche, c'est quand même un concept assez intéressant. Alors, je sais que l'auteur nous a contactés et je pense qu'il doit nous écouter en ce moment, donc on le salue, et probablement qu'au mois de novembre, on le recevra un petit moment dans le cadre de notre émission. D'ici là, on peut peut-être écouter une chanson qui était un petit peu rigolote, « Les Charlots, merci patron ».
Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tous de bonheur.
Ah oui,
humeur égale et joyeuse, nous courons vers la pointeuse. Le temps d'enfiler nos bleus et nous voilà tous heureux.
La ira, la ira, yeah. Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Merci patron,
merci patron,
merci patron,
merci patron.
Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra.
Quand on pense à tout l'argent qu'au fin de mois on vous prend, nous avons tous un peu honte d'être aussi près de nos comptes.
Ah oui.
Tout le monde à la maison vous adore avec passion. Vous êtes notre bon ange et nous chantons vos louanges.
Laïra, laïra, yes. Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux. Ici-bas, un jour Dieu vous le rendra.
Oui, c'est ça.
Mais en attendant ce jour pour vous prouver notre amour. Nous voulons tous vous offrir un peu de notre plaisir.
Oui,
nous allons changer de rôle, vous irez limer la tôle et nous nous occuperons de vos ennuis de patron. Nous serons patrons,
nous serons patrons,
nous serons patrons,
nous serons patrons.
À vous le plaisir de travailler pour nous,
vous êtes heureux comme un fou.
Nous serons patrons,
nous serons patrons,
nous serons patrons,
nous serons patrons.
Ce que vous avez fait pour nous,
nous le referons pour vous.
Mais il est plus petit que le jardin de ma tante.
Oh, c'est pas vrai.
Ah, bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour.
Alors. En attendant notre invité qui va nous joindre par téléphone, je vais vous parler d'un petit livre qu'on nous a adressé. Bon, les éditions du Seuil nous ont adressé Le Parrain, Sarko après Sarko, l'enquête. Alors, on connaît tous le personnage. Enfin, on croit connaître. Et franchement, même si les affaires publiques nous rendent un peu mélancoliques, pour reprendre la formule de Brassens, ce livre donne à réfléchir. Alors, on savait tous ce qu'était le bonhomme, on sait tous les secrets de l'État, de la finance, du sport, que tous ces sommets de l'État, de la finance et du sport ne sont pas blancs comme neige. Mais là, le lecteur se perd dans les méandres des affaires les plus fascinantes. Et on en a par millions. Des millions d'euros, les zéros en rafale. Ah oui, il y a les zéros après le 1, hein. Ne croyez pas que c'est pour 10 000, 3 000 euros. Hein. Non, il y en a pour du fric. Et d'ailleurs, il le dit bien, notre ami Sarko. Après, puisque maintenant je ne peux plus me présenter, je vais faire de l'argent, mais du gros argent. Ah. Et puis alors, évidemment, eh bien, nous avons les procès. J'allais dire le procès, mais non, les procès. Les enjeux, les soutiens en sous-main, puis toutes ces affaires, et surtout le grand procès qui va démarrer en 2025. Et le risque, eh bien, c'est qu'effectivement, après avoir eu toute une série de condamnations, il soit réellement condamné, mais là, à éventuellement de la prison ferme, mais comme le disent les auteurs, Étienne Girard et Laurent Valdiguier, est-ce qu'on pourrait penser à une grâce présidentielle? Une grâce présidentielle pour protéger ce parrain. À vous de lire, je rappelle donc le titre, Le Parrain, Sarko après Sarko, l'enquête, aux éditions du Seuil, Étienne Girard et Laurent Valdiguier. Notre invité nous a rejoint. Frédéric, tu peux nous passer Isabelle?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour Isabelle. Alors, vous avez... vous allez présenter ce livre, Brassens anarchiste. On passe à autre chose. Là, pendant, en vous attendant, on était en train de présenter Sarko après Sarko, l'enquête. Bon, on est dans un autre monde, là. Quand même dire. Alors, Isabelle Felici, vous êtes professeure en études italiennes à l'université Paul Valéry, Montpellier 3.
C'est ça.
Et vous avez réuni une équipe de spécialistes de l'anarchisme et de Brassens pour réaliser ce livre, Brassens anarchiste. Qu'est-ce qui vous a incité à publier ce livre sur Brassens?
Eh bien, comme vous l'avez dit, c'est un volume collectif. On s'était réunis en octobre 2021 dans le cadre d'un colloque qui avait été organisé au moment du centenaire Brassens à Sète, un colloque qui s'est tenu sur un bateau d'ailleurs, c'était un très beau souvenir. Et et qui était, disons, joint à un autre événement qui tournait autour de Brassens et ses origines italiennes, puisque c'était un précédent travail que j'avais mené sur la famille des grands-parents maternels de Brassens, voilà. Et donc, on a joint les deux événements et on a organisé ce colloque. Et comme tout colloque, ben, c'était assez logique d'en faire de publier les actes et donc d'en faire cet ouvrage collectif.
Dites-moi, ce bateau s'appelait pas Les Copains d'abord, quand même, si ?
Non, je crois qu'ils avaient appelé ça le Rouquayrol, d'accord, de mémoire. Voilà.
D'accord. Alors, on comprend mieux pourquoi comment plutôt le choix des co-auteurs s'est opéré. Vous en avez, certains n'ont pas participé à la réalisation du livre aussi, tout le monde ?
Ben, disons qu'on a vraiment ciblé sur toutes les communications qui avaient un lien avec Brassens directement. Donc, oui, mais vous voulez que je vous fasse la petite liste
de, alors, une petite liste, là.
Alors, ben, d'abord, il y a Sylvain Boulouk, qui est l'auteur d'une rubrique du Brassens dans le métro, d'une rubrique Brassens dans le métro, voilà. J'ai demandé aussi à Einsteiner, parce qu'elle s'occupe d'anarchisme individualiste, et donc ça me paraissait particulièrement bienvenu. Et puis, il y a un trio qui s'était un petit peu constitué, toujours pour 2021, parce que il y avait eu l'idée d'un calendrier qui a été publié par le CIRA de Marseille. Hein, je ne sais pas si vous l'avez eu, ce calendrier, c'est vraiment collector maintenant. Le CIRA de Marseille, le CIRA, c'est le Centre International de Recherche sur l'Anarchisme. Oui. Tous les ans, ils font un calendrier. Et donc, l'idée était venue de faire ce calendrier Brassens en 2021. Voilà, donc on retrouve Fred Bory et Cédric Perolini et moi-même. Et puis, il y a également donc Pippo Guerrieri, qui est le responsable d'une maison d'édition, d'un journal important. Enfin, je crois que c'est la plus ancienne maison d'édition anarchiste en Italie, la Fiaccola, voilà, que je connaissais depuis longtemps. Et puis en fait, quand j'ai fait le travail sur Brassens italien, ben, j'ai découvert un qui parlait français, deux qu'il avait une passion pour Brassens, et donc on a combiné tout ça. Voilà.
D'accord. Bon, donc ça fait une belle équipe. Vous avez mentionné Anne Steiner. Vous situez Brassens dans le courant individualiste de l'anarchisme. On peut rappeler ce que signifie ce courant et puis quelques propos de Georges Brassens qui vont en ce sens?
Oui, alors c'est surtout lui hein, qui se situe dans ce courant. Mmh. À la fin du volume, on a mis un florilège de certains de ses propos en lien avec l'anarchisme. Et voici un exemple. Vous me proposez de citer ses propos. Il dit « Les anarchistes sont à peu près tous d'accord sur le fond, mais sur les moyens employés. Moi, j'ai été plutôt individualiste. Chez les anarchistes, il y avait des communistes libertaires avec lesquels je n'étais pas d'accord, avec lesquels j'étais amie quand même. » Voilà un exemple. Alors, pour vous parler du courant individualisme, Einsteiner serait beaucoup mieux placé que moi. Disons que le courant est souvent un peu méconnu, mal connu, car ce qu'on met en avant, c'est les pratiques illégalistes et les actions violentes commises par certaines personnes qui se revendiquent de ce courant. Mais on pense moins souvent, par exemple, à l'art de vivre en autonomie, même dans le milieu alimentaire, la solidarité, l'hospitalité, et aussi à l'éducation, pour favoriser, là je reprends la définition qu'elle propose dans l'ouvrage, oui, pour favoriser la prise de conscience, pour favoriser la fin des préjugés et pour prendre ses distances par rapport aux normes intériorisées. Donc là, c'est sûr que avec une définition comme ça, on retrouve quand même dans les grandes lignes Brassens.
Oui, c'est ce que j'allais dire, effectivement. C'est bien l'esprit de Brassens avec cette définition. Alors, il va rejoindre la Fédération anarchiste. Comment rejoint-il cette Fédération anarchiste ?
Bah, alors, comment c'est très simple, parce qu'il donne lui-même la date, en mai 46, et il le dit dans une lettre à un de ses copains, dans une lettre du mois d'août 46, je crois. Donc, ça, c'est assez précis, et on le tient de lui. Alors, l'itinéraire, le reste, on est peut-être un petit peu obligé quand même de faire une reconstruction. Il a commencé à réfléchir avec des amis à la publication d'un journal qui était quand même bien avancé, hein, il y avait un numéro près, le journal s'appelait Le Cri des Gueux, et puis bien, ils n'ont jamais trouvé les financements. C'est malheureux à dire, mais voilà, donc c'est une carrière de journaliste qui allait tourner court. Et puis, par Marcel Renaud, qui est un ami du mari de Jeanne Planche, donc Marcel Planche, qui est anarchiste, Marcel Renaud, il fréquente le groupe du 15e. Ça aussi, on le sait par ses copains. Ses copains, surtout ses amis, c'est toi qui l'ont beaucoup fréquenté à ce moment-là. Et puis, un petit peu peut-être, je ne sais pas, on imagine, il avait 24-25 ans, peut-être pour le consoler de cet échec journalistique, eh bien, il lui suggère, c'est une supposition, mais ça pourrait bien marcher. En tout cas, il lui suggère d'envoyer un article au journal. À l'organe de l'AFA, le Libertaire.
Le Libertaire à l'époque.
Oui. Voilà. Donc, mai 46, ça c'est sûr, puisque c'est dans une de ses lettres. Donc la date est bien certaine.
Alors il commence par faire un article, et il est tout surpris que cet article soit retenu, si je me souviens bien.
Oui, alors ça, on est bien sûr que ce premier article est de lui, parce qu'en fait, il est reconstitué par Henri Bouillet, qui était encore alors le secrétaire général de l'AFA. Et donc, je crois que l'article, on le met aussi dans les documents annexes, en 1971, il raconte sa rencontre avec Brassens, en remettant un petit peu les points sur les i, parce que un peu tout le monde a rencontré Brassens pour la première fois. Mais bon, là, c'est vraiment lui qui le reçoit. Et Brassens se rend au quai de Valmy, où est le siège à la fois de l'AFA et du Libertaire, et on l'envoie chez Bouillet, qui était fleuriste. Voilà, et donc c'est bien par lui que il commence à travailler au journal Le Libertaire.
Alors le quai de Valmy, pour ceux qui ne sont pas sur Paris et qui ne connaissent pas forcément, c'est un des quais le long du canal Saint-Martin, et effectivement à l'époque l'AFA avait son siège là. Et alors il va commencer à écrire dans Le Libertaire, il va être intéressé, quoi. Je veux dire, c'est vraiment une passion, non?
Ah ben, sûrement, puis je pense aussi que ça correspondait à un besoin, puisque on est en 1946, on n'est pas très loin après tous ces chambardements de la guerre, on a besoin de gens qui sachent écrire quand même, puisque le journal envisage quand même de paraître de façon hebdomadaire, ce qui va effectivement être le cas, et donc on peut un peu reconstituer tout son parcours, puisque le bulletin interne de l'AFA est disponible, en particulier au CIRA de Marseille, par exemple, ou de Lausanne, et qu'on peut voir les traces de sa participation. Donc, je vous fais un petit peu l'historique de sa participation au journal.
Par exemple, oui.
Donc, il est d'abord, il travaille finalement un peu de façon officieuse, puisque ce n'est que en octobre, je crois, que son titre de secrétaire de rédaction du journal va être voté à l'unanimité, je vous dis octobre ou septembre, je sais plus. En tout cas, c'était au congrès de Dijon, donc un des premiers après après la guerre. Et donc, c'est là que, officiellement, le jeune camarade du 15e, Georges Brassens, est nommé à l'unanimité secrétaire de rédaction. Mais avant, en fait, il fait déjà tout le travail, hein. Il y a un de ses copains qui vient le voir à Paris et et qui lui dit il travaillait pas loin de l'imprimerie du Croissant où il passait ses journées et où il lui dit voilà ce numéro là c'est moi qui l'ai écrit presque en entier. Donc ils étaient deux au départ, Bouillet et Brassens, et aussi un joli deux, même trois, avec son copain Le Poil qui rencontre au journal. Et puis après le congrès de Dijon, en fait Bouillet est un peu sorti des machines, on va dire, et ils restent tous les deux, mais là c'est vraiment Brassens qui est officiellement secrétaire de rédaction.
Alors c'est un quasi permanent, il passe ses journées à l'imprimerie, ça c'est vrai, enfin c'est mentionné, et il a et ses articles, alors son premier article porte sur la police, je crois, hein, et il est assez net dans son approche, et c'est Frédéric Bory qui fait une analyse de cet article. On peut retrouver d'ailleurs l'article, je crois, dans votre livre.
Oui, je crois que c'est pas Frédéric qui fait Frédéric le mentionne, mais je crois bien que c'est moi. Si vous faites référence au texte qui est en annexe. En annexe, c'est moi qui propose. Bah, je fais un lien entre c'est la formation littéraire qui ressort entre des possibles sources, influences qui pourraient avoir, qui pourraient être à l'origine de ce texte qui a fait effectivement assez, qui a son franc parler, mais qui est construit un peu avec comme une chanson finalement, avec trois strophes et comme un refrain qui revient. Donc si vous faites référence à cette partie-là, Frédéric bien sûr le mentionne, hein, et puis on a lu forcément les mêmes textes de Bouillet qui raconte ce premier article. Et vous dites un quasi permanent, en fait, à part pour ce premier article où évidemment il n'est pas encore connu. D'ailleurs, il l'envoie non signé, hein, et malgré ça, c'est pour ça qu'il est étonné aussi qu'on le prenne, qu'on l'accepte, qu'on le publie finalement. Donc il devient vraiment très vite impermanent, comme je vous disais. Hein, ça ne dure pas très très longtemps puisqu'il démissionne en janvier 1947.
Alors, voilà. Sa démission peut s'interpréter comme un surmenage, une rupture avec une conception de l'action militante. Les deux.
Ni l'un ni l'autre, j'ai envie de vous dire. Après, bon, il s'est pas exprimé directement là-dessus. Hein. Enfin, ce qui est sûr, c'est que dans ses interviews plus tard, il dit qu'il a failli être journaliste. En fait, il y croyait vraiment. Hein. Donc, d'ailleurs, son journal aussi, Le Cri des Gueux, c'était un projet de jeunesse, mais enfin, c'était vraiment aussi une façon de gagner sa vie finalement. Hein, en étant journaliste, parce que faire de la chanson, c'était aussi ses projets, mais c'était difficile, on sait bien qu'il lui a fallu des années. Donc, je pense qu'il avait plusieurs cordes à son arc, qu'il a essayé celle-ci, du journalisme quand même politique, et puis, est-ce qu'il était surmené ? On avait un peu marre de faire le courrier et qu'il dit des choses pas très sympas, à la fois sur les gens qui envoient des lettres et puis sur les gens qui le rappellent un peu à l'ordre parce qu'il a laissé il a pas répondu à tout le monde. Mais je pense pas qu'il était surmené. Enfin, il a fait vraiment le choix, ben, de se consacrer à l'écriture plutôt poétique et surtout à celle des chansons.
Est-ce qu'on peut considérer que sa vie, sa vraie vie, c'est la littérature, c'est la poésie?
Je pense pas qu'on puisse mettre les gens, je parle pas simplement pour Brassens, uniquement dans des petites catégories comme ça. Hein. Moi, je pense vraiment que ces textes de jeunesse, ça fait partie aussi de l'homme qu'il est devenu ensuite. Hein. Mmh. Donc, c'est sûr que, par exemple, les lettres à son ami Tousneau, ça regorge de littérature, de références, de tout un tas de références. Malheureusement, on n'a pas sa bibliothèque qui a été éparpillée. Enfin, ça, c'est un autre sujet. C'est sûr qu'il ne respire que par ça, c'est certain, mais ça n'empêche pas d'avoir des idées et d'avoir envie de les exprimer. Donc, je ne pense pas qu'on puisse, même plus tard, il continue à avoir d'autres lectures. Donc, je ne pense pas que ce soit le seul aspect, mais c'est évidemment fondamental chez lui.
Et il n'a jamais rejeté, il n'a jamais renié, comme d'autres l'ont pu le faire, son sentiment et sa vision de l'anarchisme.
Ben écoutez, moi je trouve que non.
Hein, d'abord, il a toujours été.
Oui, parce que très tard, il en parle. Oui. Même, donc il a donné quand même pas mal d'interviews. Hein, très tard, il en parle. Alors c'est sûr que c'est peut-être pas les choses les plus, comment dire, remises au bout du jour ou les plus souvent citées, etc. Hein, mais il fait des galas jusque très tard pour la cause libertaire, pour les camarades espagnols.
Oui,
aussi
pour aider financièrement la Fédération anarchiste et le monde libertaire, tout à fait.
Voilà, exactement, contre la peine de mort aussi. Mmh. Et puis son copain Le Poil, dont j'ai déjà parlé, il reste en contact très très longtemps. Encore dans les années 70, il y a un échange de lettres. Alors on a la réponse de Brassens à Le Poil, qui il est obligé de lui dire non pour une proposition de gala, toujours pour l'Espagne, mais en fait, il lui dit non parce que, pour des raisons, il était très pris forcément par son travail d'artiste, mais sur le principe, il a fait très tard ces galas, hein, chaque fois que aussi sa santé le lui a permis.
Et alors, on trouve aussi dans ses chansons ces thématiques de prédilection, la police, etc.
Ben oui, c'est pour ça que je trouve intéressant de faire le lien entre les textes, ces textes de jeunesse. Donc, grâce au travail de Fred, on a toute la liste, toute une liste des textes de jeunesse. Et effectivement, on retrouve l'antimilitarisme. Une certaine forme d'anticonformisme, c'est sûr, anticléricalisme, j'aime pas trop les listes parce qu'évidemment on oublie toujours et puis on risque, liberté, solidarité, amitié, c'est important
l'amitié,
aussi,
oui.
Donc c'est sûr que toutes ces chansons font écho à ce qu'il a écrit dans sa jeunesse.
Et vous le présentez aussi comme à l'école des poètes, il est passionné, évidemment, François Villon, mais beaucoup d'autres. Vous pouvez nous en citer quelques-uns de ces poètes qui ont fasciné Brassens?
Alors là, c'est vous renvoyez, vous évoquez le texte de Cédric Perolini, qui donc un collègue de l'Université d'Avignon en littérature française, donc qui a proposé un article sur effectivement tous les poètes. Alors de mémoire, il y en a une vingtaine. Là aussi, je vais en oublier. Mais on a la liste également en annexe, donc Victor Hugo, François Villon, vous l'avez dit.
Il y a Paul Fort.
Paul Fort, Antoine Paul, celui des passantes.
Oui.
Il y a quand même Aragon, qui n'était pas forcément toujours son ami, dont il est souvent question d'ailleurs dans les articles du Libertaire, parce que Aragon était membre du Comité national des écrivains et qui avait mis à l'index un ami de Brassens du groupe du 15e, qui est le poète Armand Robin, donc il y a Armand Robin que Brassens ne met pas en musique mais qu'il a forcément lu, c'est ce que dit Cédric. Il choisit vraisemblablement des poètes qu'il a lus et dans lesquels il retrouve évidemment aussi des propos y compris politiques qu'il partage.
Alors dans le livre, vous consacrez aussi un texte, aux anarchistes italiens et à Georges Brassens. Alors, vous nous avez donné déjà un début d'explication au début de l'entretien. Est-ce que vous pouvez préciser ?
Oui, écoutez, Brassens, il a été traduit en toutes les langues. Et en italien, moi je suis prof d'italien, vous l'avez dit au départ, donc en italien très tôt, et aussi dans plein de dialectes italiens, et puis aussi il y a une forte influence de la variété française en général, en particulier Brassens, aussi Jacques Brel, etc., sur la chanson d'auteur. Et donc, c'était intéressant de consacrer... l'ouvrage était quand même centré sur Brassens et l'anarchisme, forcément. Donc Pippo, dont je vous ai expliqué que c'est un ami de longue date, a eu l'idée comme ça de faire une sorte de sondage auprès des anarchistes italiens pour voir comment il était, par s'il connaissait Brassens, c'est par quel biais. Voilà. Et donc, il y a un nom qui ressort en particulier, qui est celui de Fabrizio De André, qui est un chanteur un peu plus tardif que Brassens, mais qui l'a vraiment connu au tout début, et dont qui a traduit environ, je crois 6 ou 7 chansons de Brassens en italien, et dont beaucoup d'Italiens, en fait, ne savent pas qu'elles sont, en fait, à l'origine des chansons de Brassens. Donc c'est intéressant de voir un petit peu ce cheminement chez les anarchistes italiens.
Et puis vous avez rédigé un texte sur Brassens et les femmes. Alors Brassens, oui. C'est Vénus, la complainte des filles de joie, misogynie à part. Comment est-ce que vous pouvez nous parler de Brassens et les femmes?
Oui, alors ça, c'était un des textes du calendrier du CIRA, justement. On avait essayé quand même de faire des... C'est pour ça qu'on les a mis, on en a mis certains en annexe, parce qu'on avait essayé de faire quand même quelque chose d'amusant. Brassens et Vénus, si vous voulez... je ne sais pas comment dire en deux mots. D'ailleurs, je profite de votre antenne pour rappeler le débat très intéressant qu'on a eu à ce propos à Saint-Imier aux rencontres internationales. Et il y avait tout un tas de gens d'un peu partout avec lesquels j'aurais bien aimé garder des contacts. D'ailleurs, je leur envoie un petit salut une invitation à reprendre contact. Ce serait bien volontiers parce que justement, on a eu cette même discussion. Et comme il y avait des gens d'un peu partout et de toutes les générations, c'était intéressant. En fait, pour le dire en deux mots, j'ai des copines féministes d'un certain âge, on va dire, qui adorent Jean Brassens, et puis j'en ai des plus jeunes, tout aussi féministes, bien sûr, qui me répondent, qui me disent, mais tu comprends, il reprend tous les archétypes sur la femme, etc. Donc, bien sûr, il faut le replacer certainement dans sa période. Bon, rappelez quand même qu'il y a plein de formes de féminisme aussi. À l'époque, quand il est décédé en 1981, il avait à son chevet, un des livres qui était à son chevet portait sur le sadisme des femmes par une dame dont j'ai oublié le nom, qui se revendiquait comme féministe elle aussi, alors que je pense que ça ferait dresser des cheveux sur la tête à plein de féministes d'aujourd'hui. Donc c'est sûr que c'est pas... Il n'a pas parlé d'anarcha féministe à l'époque. On ne pourrait pas lui reprocher ça. Après, il y a peut-être des petits problèmes dans certaines chansons, comme Marinette, par exemple, où il est quand même question d'aller brûler sa petite cervelle. Et donc, c'est forcément un lien avec... en lien avec un féminicide ou une idée de féminicide. En même temps, il est tellement ridiculisé, ce macho, que, vous voyez, c'est pas aussi simple que ça. Donc moi, je suis pas trop d'accord avec l'étiquette de misogynie, d'autant plus que les chansons que vous avez citées, elles sont importantes. Et que si on écoute les comiques de l'époque, y compris ceux qu'on invitait au gala du Libertaire, je peux vous assurer que c'est vraiment le comble du mauvais goût et du mauvais humour sur les femmes. Et pourtant, on est à la même époque. Donc, je pense vraiment que c'est pas une étiquette qui lui convient.
Et je me rappelle qu'au moment où il a chanté La complainte des filles de joie, c'était un grand mouvement de la prostitution avec, je crois, une femme qui s'appelait Hula, ou un nom comme ça, et qui était sur Lyon. Et il avait chanté cette chanson devant un public de prostituées, et il avait été applaudi, ovationné, parce que ce qu'il explique, c'est que c'est pas des filles de joie, quoi. Enfin bon, voilà, la notion de joie, c'est un petit peu facile.
Non seulement il a été ovationné, mais il a reçu une lettre qui on l'a pas reprise. D'abord, c'était pas tout à fait le sujet, et on l'a pas reprise, mais elle circule assez facilement. Il a reçu une lettre très belle c'est de cette période-là, qui le remercie pour cette chanson sur les filles de joie. Oui. Chez Brassens, il n'y a pas de jugement a posteriori, non. Donc c'est ça qui est formidable aussi, et qu'elles ont dû particulièrement apprécier.
Alors, est-ce qu'il est, Brassens, casé pour la société dominante. Est-ce qu'on l'accepte en cachant son anarchisme ou bien est-ce qu'il serait encore qualifié de scandale d'immoralité? Là, j'ai beaucoup aimé la lettre qui n'était pas anonyme d'ailleurs, hein,
c'est, non,
que, oui. que vous avez publiée. Bon, des gens qui dénonçaient Brassens jusqu'à la fin de sa vie quand même. Hein.
Oui, bah écoutez... Alors, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, mais il faudrait vraiment lire ces textes de jeunesse, et donc vous avez la liste établie par Fred qui vous permet d'aller chercher le Lib de l'époque qui est en ligne. Et je le dis parce que j'ai lu plusieurs recensions sur le bouquin et personne n'a remarqué, je trouve que qu'on n'a pas assez remarqué cet élément vraiment nouveau, c'est-à-dire qu'on a quand même la chance de pouvoir lire un Brassens qui n'est pas inédit puisque ça a été publié, mais qu'on lisait sans savoir que c'était lui, alors que grâce au travail de Fred, maintenant on a une nouvelle piste à suivre. Donc est-ce que aujourd'hui encore, ben écoutez, je vous fais juste une suggestion, essayez de transposer la chanson Les deux oncles sur la guerre actuelle en Ukraine et vous verrez bien ce qui vous arrive.
Oui.
Voilà, ça me semble aussi simple que ça. Donc, est-ce qu'il était engagé? Mais bien sûr, en intro, je reprends une de ses phrases, bon, qu'il n'aurait pas prononcée en public parce que je crois qu'il était vraiment trop poli, trop gentil pour ça, mais il dit dans son journal intime, les cons, faut leur mâcher les mots. Donc, allez voir les chansons de Brassens, c'est sûr que rarement il caresse les gens dans le sens du poil. C'est sûr qu'il dit aussi qu'il a cette capacité de se faire aimer par des gens avec qui il n'est pas du tout d'accord. Vous voyez peut-être comme moi l'extrait d'une émission à la télé où il y a le général Bijard qui le couvre de compliments et auquel il répond « Mais arrêtez, vous allez me faire peur au monde public !» Voilà, donc je pense que vraiment c'est... Oui, bien sûr qu'il n'est pas du tout dans la bonne pensée, c'est pas un bien pensant a priori, quoi.
Et alors Brassens, il est à côté des gens, il est pas au milieu. Il expliquait un petit peu qu'il aimait bien être un peu à part.
Oui, c'est sûr qu'il le dit ça, que dès son enfance, enfin, il se sentait pas tout à fait. Jamais vraiment à sa place, mais parce que justement, je pense qu'il a mis le temps de comprendre que, il le dit aussi, d'ailleurs, en fait, il a compris que alors maintenant, j'ai pas retenu la citation exacte, il faudrait que je vous la cherche, mais en fait, il a compris qu'après, c'est les autres qui avaient tort, finalement. Donc, moi, je trouve au contraire qu'il est au milieu, hein, il n'est pas du tout à côté. Parce que depuis que j'ai fait le travail sur Brassens, donc je parle aussi avec des gens qui ont eu la chance, de le voir en vrai, en spectacle, ce que moi, j'ai malheureusement pas pu faire. Et j'ai une amie qui a, je crois, plus de 90 ans, qui vient d'une famille bourgeoise, père militaire, etc., et qui me parlait, mais presque encore avec le coup de l'émotion, de la découverte de Brassens comme un appel à l'émancipation. Alors, je crois que vraiment, là, il est au milieu des gens. Je cite aussi Claire Ozias, qui a, je crois, une petite trentaine d'années, a fait un texte sur Brassens, et qui dit très justement, là, les jeunes filles qui entendent « Ne gravons pas nos noms au bain d'un parchemin », eh bien, elles ne se marient pas. Mais Georges Brassens ne lui dit pas « Ne te marie pas ». Il lui fait comprendre. Donc, je pense que il est encore au milieu des gens, et si vous fréquentez, je suppose comme moi, parfois des milieux, on va dire, avancés, dans des collectifs où il y a beaucoup de jeunes, comme par exemple à Saint-Igné, on était 40 un soir à 9h assis sur des trucs en bois, pas pratique du tout, mais on a chanté Brassens, et il y en a plein d'autres qui ont rappliqué dès qu'ils nous ont entendu chanter, et dans plein de milieux comme ça, et c'est surtout des jeunes, et ils le connaissent encore par cœur. Donc je trouve que c'est ça qui est formidable.
Ouais. Vous avez des projets? Vous avez des projets de colloques, de publications, Isabelle?
Oui, donc, alors, ben, si vous êtes à Montpellier les 12 et 13 octobre, il y a une journée d'études sur la presse et sur la question de la langue et du contre-pouvoir. Ça s'inscrit, moi j'ai un projet personnel sur la presse anarchiste en italien publié en France et dans d'autres aires francophones, donc voilà. Toujours avec le Brassens, il y a une publication en cours en italien, donc... Il y a à la fois mon texte sur les origines maternelles de la famille, enfin des grands-parents maternels, et puis une sorte de réflexion aussi sur Brassens anarchiste. Donc voilà. Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser? J'ai un volume en cours qui va être publié l'année prochaine à l'atelier de création libertaire à Lyon sur anarchisme en Méditerranée orientale et méridionale, pardon, avec un collègue Costantino Paones, que je salue si jamais. Voilà. Bon, sur femmes et littérature italienne, ça vous intéresse peut-être moins, mais bon, donc je vais peut-être m'arrêter là. Ah si, oui, un projet de cartographie sur Brassens. Voilà.
Ah, ça, c'est... Bien, ça, oui, intéressant. Et mais voilà. En tout cas, sur les le livre sur les ateliers, enfin tiré des édités, je vais y arriver, par les ateliers de création libertaire, bah ça, oui, on va en parler. Et à ce moment-là, on pourra vous réinviter, Isabelle. Alors.
Eh ben volontiers, bien sûr,
voilà.
Avec plaisir.
Eh ben, merci pour cet échange et je rappelle le titre de votre livre, le livre que vous avez coordonné, Brassens anarchiste, paru aux éditions Atlante, qu'on peut évidemment retrouver chez Publico, la librairie de la Fédération anarchiste. Merci et puis tenez-nous au courant de vos publications.
Volontiers, à bientôt.
Bonne fin de journée,
au revoir.
Au revoir. Frédéric, nous allons passer, alors non pas la complainte des filles de joie, non pas la non-demande en mariage, mais parce que j'aime bien, parce que Brassens aborde un bois, mentionne un bois que j'aime bien, Au bois de mon cœur de Georges Brassens.
Il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur. Au fond de ma cour, je suis renommé. Au fond de ma cour, je suis renommé. Je suis renommé pour avoir le cœur mal famé. Le cœur m'affamé, au bois de Vincennes, il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur. Quand il y a plus de vin dans mon tonneau, quand il y a plus de vin dans mon tonneau, dans mon tonneau, ils n'ont pas peur de boire mon eau, de boire mon eau. Au bois de Meudon, il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur. Il m'accompagne à la mairie, il m'accompagne à la mairie. À la mairie, chaque fois que je me marie, que je me marie. Au bois de Saint-Cloud, il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur. Chaque fois que je meurs fidèlement, chaque fois que je meurs fidèlement, fidèlement, ils suivent mon enterrement, mon enterrement. Des petites fleurs, des petites fleurs. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur.
Frédéric, Alors, nous allons bientôt avoir Dominique en ligne dans une minute. Je voudrais vous préciser que un livre de Jean-Paul Liégeois qui avait été édité il y a quelques années aux éditions Le Cherche Midi a fait l'objet d'une réédition. Donc c'est l'intégralité des textes, des articles, des chansons de Georges Brassens. C'est un très gros pavé. Bon, donc je l'ai vu aujourd'hui en passant à Publico, comme je le fais à chaque fois que je viens pour notre émission. Alors, depuis le début, on mentionne des ouvrages. Hein, bon, n'hésitez pas à les commander à la librairie de la Fédération anarchiste ou à vous y déplacer, 145 rue Amelot. Un de nos copains organise des animations sur... régulièrement et c'est vraiment très intéressant. Je crois que nous avons Dominique en ligne. Alors, Dominique.
Oui, bonjour Francis.
Alors, bonjour Dominique. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'un livre consacré à Chalamov, l'un des plus célèbres prisonniers politiques et écrivains de l'ère soviétique.
Oui, oui, oui. Alors, célèbre moins que Solzhenitsyn, mais bon, oui. Il est quand même très connu, hein, je vais expliquer. Donc, c'est le livre de Gisèle Bienne, « Les larmes de Chalamov » chez Actes Sud, paru en 2023. Donc, je ne sais pas si tu connais Gisèle Bienne.
Alors, qu'a-t-elle fait ?
Alors, elle a fait le livre « Marie Salope », « Nous les femmes, on le connaît ». C'était un livre qui est paru en 1976. C'est l'histoire d'une ado de 15 ans mal dans sa peau dans une famille de la campagne. Et puis ensuite, elle a fait plein de livres sur des personnes en rupture de banc, comme le poète Blaise Sandrard, la poétesse Catherine Mansfield, les survivants de la Grande Guerre ou des malades, des victimes des produits phytosanitaires. Donc elle prend toujours des gens un petit peu en marge hein, de la société.
Alors là, elle a publié un livre sur Chalamov, Les larmes de Chalamov, hein, c'est ça le
oui,
titre.
Alors, oui, oui,
de quoi ça. S'agit-il ? C'est une biographie,
alors,
c'est un roman,
alors,
c'est quoi ?
Oui, oui, c'est une biographie. Ouais. Donc pour un personnage qui a réellement existé, qui est né en 1908 dans le nord de la Russie, dans une ville qui était déjà une ville de déportés. Et donc, étant fils de prêtre orthodoxe, il ne pourra pas suivre les études qu'il souhaite. Il sera arrêté une première fois en 1929 dans un camp de travail dans l'Oural. Et puis, les grandes purges le renvoient au goulag en 1937. Et là, il est arrêté pour un prétexte bénin. Il a affirmé que Bounine, prix Nobel de littérature, réfugié en Occident, était un grand écrivain. Bon, il est soupçonné aussi d'être trotskiste. Hein. Il sera condamné cette fois-ci à 17 ans de réclusion et envoyé dans la Kolyma. La Kolyma, c'est une rivière dans une région à l'extrême-est de l'URSS, au-dessus du cercle polaire arctique, connu sous le nom de pays de la mort blanche. Et donc, il est condamné du fait de l'article 58, donc condamné politique, et il doit être soumis aux travaux les plus durs dans le but de le faire mourir. Donc, il deviendra ce qu'on appelle un zec.
Oui.
Oui. Il en sortira en 1951, mais restera encore 3 ans dans une ville située à côté de la Kolyma. Et puis, il sera aussi relégué en rentrant dans une ville près de Moscou, toujours surveillé par le KGB. L'État lui interdit de revivre avec sa femme et sa fille le considérera comme un ennemi du peuple. Donc tout ça, c'est très joyeux. Il écrira ses récits entre 1954 et 1973. C'est 1500 pages, c'est un très gros récit. Et il mourut à 82 ans après un séjour en asile psychiatrique. Il fut publié une première fois par Maspero en 1980. Et la presse, curieusement, en parla peu par rapport à Solzhenitsyn. Il ne fut publié en 1988 en URSS.
Il a publié notamment « Souvenirs de la Kolyma ». Enfin, c'est des pavés, ces livres. Hein. C'est...
Oui, oui, c'est 1500 pages.
C'est...
Alors, et par rapport à Solzhenitsyn, Solzhenitsyn n'a pas vécu dans un camp aussi dur. Donc, c'est beaucoup plus dur que les récits de Solzhenitsyn.
Oui, j'avais parlé il y a quelques mois d'un livre, ben, Les Souvenirs de la Colima, et oui. J'avais montré la dureté, la trahison, la difficulté de rester un être humain dans de telles conditions. C'est ce qu'il explique très bien, ses camarades de détention deviennent absolument odieux.
Oui, oui. Alors, parce que, bon, il est affecté dans une mine d'or au départ, parce qu'il y a plein de mines dans la région. Il travaille 16 heures par jour, avec moins 56 l'hiver, 9 mois sans soleil et des constructions. Donc, l'URSS, il fallait que l'URSS se construise à toute vitesse hein, pour se hisser au rang des pays développés. Les déportés affluent de toute l'URSS et même d'ailleurs, il y a même des Français, il y a même des communistes français qui sont là. Il verra les plus grands noms se faire fusiller, des directeurs d'opéra, des physiciens, oui. Des économistes. Ouais. Les droits communs sont mieux traités, les prisonniers de droits communs sont mieux traités que les politiques et tyrannisent les politiques.
Comme dans les camps de concentration nazis. Hein.
Oui, oui, exactement pareil. D'ailleurs, il y avait, c'était marqué, il y avait sur le fronton la devise « Le travail est affaire d'honneur, de gloire, de vaillance et d'héroïsme ».
Ça fait penser à... souvenirs.
Oui, Arbeit macht frei. Mm. Donc, les Américains vont visiter un moment ce camp parce qu'ils financent des engins pour l'extraction des mines à travers un crédit bail. Et bon, ils ne verront rien. Même Henry Wallace, vice-président des États-Unis, a été visiter ce camp. Et Chalamoff raconte que l'un des bulldozers financés par les États-Unis servira à tracter les déportés fusillés avant de les enfouir dans une mine. Donc, alors, bon, c'est très dur. Hein, comme elle nous rappelle sa vie et tout ce qu'il a écrit. Hein.
Ben, je pense que c'est important de montrer ce que c'est qu'un système totalitaire dirigé par les gens qui étaient au pouvoir en URSS à cette époque. Je ne suis pas sûr que ce soit fondamentalement différent aujourd'hui.
Oui, oui. Gisèle Bienne raconte sa prise de conscience parce qu'en 78, avant 78, elle était partisane de ce régime et donc, bon, elle avait idéalisé ce pays et justement en lisant la Colima, ça lui a dessillé ses avis. Hein. Mmh. Alors, un mot, tu disais, oui, l'humanité. Donc, le corps est usé, mais c'est surtout les blessures de l'âme qui comptent. L'âme, c'est un mot qui revient souvent. Mmh. Il a su résister, dit Gisèle Bienne, avec cette voix de l'auteur forçat et poète qui a su regarder l'herbe, les fleurs, les arbres, les montagnes, le ciel, les bêtes de la Colima. Elle reprend aussi cette phrase de Chalamoff qui dit à un moment « Comment les hommes instruits pendant des générations par une littérature humaniste ont-ils pu aboutir à Auschwitz, à la Colima ?»
Et voilà.
Et je terminerai par une phrase prémonitoire de Chalamoff. Il dit « Il y a des chances que si un jour, sous une impression particulièrement vive, quelqu'un revenait aux méthodes des récits, son cerveau aurait alors recours aux mêmes phrases lapidaires. » Bon, et quand on écoute les slogans de Poutine, hein, opération spéciale, dénazification, ben nous sommes en plein Chalamoff.
Alors, Chalamoff, les larmes de Chalamoff, tu rappelles l'auteur ?
De Gisèle Bienne.
Et aux éditions ?
Actes Sud,
2023, c'est un livre de cette année.
Hein. Oui.
Très bien, la prochaine fois, tu as déjà pensé au livre ?
Oui, c'est le prix qui a été reçu dans le cadre de France Inter, le prix Inter, c'est « Attaquer la Terre et le Soleil », Mathieu Bellesi. C'est sur l'arrivée des premiers colons, encore un livre aussi très dur.
D'accord. Ben dis donc, tu nous gâtes là pour la rentrée.
Oui,
hein,
je commence fort.
Bon,
oui,
non, très bien. Bon,
j'en ferai d'autres plus.
Bon, pour poursuivre, eh bien, nous allons écouter une chanson, Chant du Goulag, interprétée par Dina Vierny. Le costume neuf, donc c'est une petite chanson sur qui se déroule au Goulag, en russe évidemment. Frédéric, merci Dominique, à bientôt. Frédéric.
Костюмчик новенький, колесики со скрипом. Я за тюремную холстину променял. За эти 8 лет немало горя видел. И ни один на мне волосик полинял. А на дворе хорошая погода. В окошко светит месяц молодой, а мне сидеть еще 4 года. Душа болит, как хочется домой. А мне сидеть еще 4 года. Душа болит, как хочется домой.
Tu chantes
Solidarity Forever. Я за тюремную холстину променял. За эти 8 лет немало горя видел, и ни один на мне волосик полинял. А на дворе хорошая погода, в окошко светит месяц молодой. А мне сидеть еще 4 года.
Или 14, j'ai le temps.
Душа болит, как хочется домой. А мне сидеть еще 4 года. Душа болит, как хочется домой.
Allons aborder un moment d'histoire. Aimé Arquette. Aimé Arquette, bon, vous connaissez certainement, ce nom ne vous est pas inconnu. Une bombe explose lors d'une manifestation d'ouvriers emmenée par des anarchistes à Chicago le 4 mai 1886. Que voulait-il ? La journée de 8 heures, des conditions de travail et des salaires dignes. La violence de la répression est féroce. Rien que de très banal dans ces États-Unis qui sont tout sauf un pays de justice et d'égalité. Emma Goldman l'a assez dénoncé dans son livre « Histoire de ma vie ». Mais ce jour n'est pas comme les autres. La tuerie de Emma Arquette restera dans l'histoire des luttes du mouvement ouvrier comme l'origine du 1er mai, un jour de lutte, de revendication et non de fête. L'auteur du livre Aimé Arquette, récit des origines du 1er mai, publié aux éditions Luxe, Martin Senevitz, met en sous-titre cette notion d'origine du 1er mai. On pourrait s'attendre à un énième livre sur ce thème, sans grande nouveauté. Or, justement, l'auteur s'attache à montrer le développement de Chicago depuis les expulsions des Amérindiens de leur refuge, Chicawa, qui deviendra Chicago. La ville-usine, détruite par un gigantesque incendie en 1871, rebâtie en quelques années, la pollution des eaux, de l'air, de la terre, la misère des ouvriers arrivant de l'ancien monde, les conditions de travail, de mise à mort des bêtes dans les gigantesques abattoirs qui ont enchoqué Élysée Reclus, et relisez la jungle d'Upton Sinclair. Nous l'avions présenté au début d'Au fil des pages en 2021. Mais il n'y avait pas que cela. La crise économique, le chômage, les grèves, notamment chez McCormick, un patron de choc qui sait faire appel à l'agence Pinkerton, aux sbires spécialisés dans la répression à l'égard des ouvriers. Les patrons sont inquiets. Certains accepteraient de négocier. Les ouvriers s'organisent. Un des apports de ce petit livre consiste à présenter les événements et d'y intégrer la vie des 8 anarchistes qui vont être arrêtés. Et oui, des syndicats secrets, des journaux se diffusent dans la langue des immigrés, notamment allemands. Les partis socialistes institutionnels déçoivent les ouvriers. Il faut lutter, manifester. Les anarchistes sont au premier plan. En face, c'est la haine, encore plus que le mépris. Il faut lire les titres des journaux. Un casier appel au meurtre. Quelle sauvagerie. Le Chicago Mail conspue ces chiens, je cite, ces chiens galeux et appelle à les condamner pour l'exemple. Il sera suivi. Le 1er mai, 2 ouvriers sont tués par la police. 3 jours après, c'est une immense manifestation. Les indiques, les traîtres sont de toutes les réunions. Des responsables prennent la parole. On chante la Marseillaise. Et oui, n'oubliez jamais que le chant révolutionnaire avant l'international, le chant révolutionnaire, c'était la Marseillaise. Bon, l'international prendra la suite. Et puis c'est la bombe. Tout va très vite. Les patrons demandent que tous les pouvoirs soient confiés à la police. Tous les droits sont violés. On en arrête 8. Auguste Spitz, Samuel Fielden, Oscar Niebe, Michel Schwab, Louis Ling, Adolf Fischer, George Engel et Albert Parsons. L'enquête est menée à charge. Il faut des coupables, même innocents, c'est pas le problème. Le juge réactionnaire fait son job, il condamne. Les voies de recours échouent. Vous vivrez les derniers moments des condamnés, les difficultés de survie des familles, notamment les enfants et petits-enfants. Assez poignants ces passages. Évidemment, vous le savez bien, des années plus tard, la police de Chicago admit qu'elle avait créé l'attentat. Des innocents ont bien été condamnés. Et rappelons-nous la phrase d'Auguste Spitz sur l'échafaud. « Le temps viendra où notre silence sera plus puissant que les voix que vous étouffez aujourd'hui. » J'ai l'impression d'entendre la grande Louise Michel. Et puis encore plus tard, en 1889, la deuxième internationale se réunit rue de Rochechouart à Paris. Et le français Raymond Lavigne propose d'organiser une grande manifestation à date fixe, de manière que dans tous les pays et dans toutes les villes à la fois, le même jour, les travailleurs mettent les pouvoirs publics en demeure de réduire la durée légale du travail. En hommage au martyr de Haymarket Square, un délégué américain propose le 1er mai. Je rappelle le titre du livre, Haymarket, récit des origines du 1er mai, de Martin Senevitz, aux éditions Luxe, en 2023. Et en hommage à ces martyrs, écoutons le chant qu'ils entonnèrent à l'énoncé de leur condamnation, Solidarity Forever. Frédéric.
When the Union's inspiration through the workers' blood shall run, there can be no power greater anywhere beneath the sun. Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one? But the Union makes us strong. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. For the Union makes us strong. Is there aught we hold in common with the greedy parasite who would lash us into serfdom and would crush us with his might? Is there anything left to us but to organize and fight? For the Union makes us strong. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. For the Union makes us strong. It is we.
Je vous invite à retrouver cette merveilleuse chanson en sachant dans quelles conditions elle a été entonnée par ces hommes qui vont mourir alors qu'ils, je le rappelle, étaient innocents. C'était des anarchistes, c'était leur seul crime. Dernier livre de cette émission, direction Marseille, direction le quartier de la Belle de Mai. Pour qui connaît Marseille, la Belle de Mai n'évoque pas un nom de bateau ou de guillerette quelconque. C'est un quartier dans le 3e arrondissement, au-dessus de la gare Saint-Charles, un lieu d'accueil des émigrés, alors des émigrés italiens, des pieds noirs, de retour d'Algérie, et aujourd'hui d'un petit peu tout le monde. Pour y rentrer, acceptons l'invitation de Pascal Escobar. Celui-ci est originaire du quartier Saint-Henri, jouxtant celui de l'Estac. Et il est un pur produit de cette ville si fascinante. Moi, j'aime Marseille. Bon, peut-être parce que j'y ai les souvenirs de descendre des escaliers de la gare Saint-Charles, des quartiers populaires où on retrouvait de la famille avant de se diriger vers le port de la Joliette. Mais revenons à l'auteur dans sa jeunesse, avant-centre de l'équipe de foot du quartier, punk, dynamiteur, travailleur social. Il œuvre dans ce quartier de la Belle de Mai. Et de cet environnement, il va en faire celui de son roman, un roman noir, Belle de Mai. Et j'aime bien aussi rentrer dans des groupes sociaux des quartiers par le roman qui donne de la chair, de la vie à une approche qui serait sèchement sociologique. Nous sommes dans la cité Félix Pia, du nom d'un communard. Elle défraie régulièrement la chronique, encore récemment. Un jeune Comorien a disparu, c'est le roman. Des embrouilles dans le milieu de la drogue, mais pas que. Stanislas Carrera, un ancien éducateur, s'est rattaché au juge pour enfants, s'est reconverti en enquêteur privé. Et avec lui, nous pénétrons dans les intérieurs confinés des gens qui vivent l'angoisse et se taisent par crainte des représailles. Les rues sinistres, sales, abandonnées de cet ancien quartier ouvrier, celui de l'ex-manufacture des tabacs de Marseille. Ces rues hébergent des trafics, scènes de drame. Toujours pour ceux qui aiment Marseille, vous retrouverez au fil des pages les noms de ces rues. Visualiser mentalement les scènes, ça c'est possible et c'est intéressant. Les besoins de l'enquête amènent Carrera à côtoyer gros et petits truands, éducateurs, clandestins, flics, prédateurs sordides, militants politiques dépassés, une jeunesse qui cherche à s'extirper de sa condition. Je ne raconte jamais un roman. À vous de lire les pages qui me font songer à la trilogie du regretté Jean-Claude Izzo. Vous savez, Fabio Montale, de Total Chaos, Chourmeau, Soléa, les trois romans d'Izzo. Entre polar et roman social, vécu en tant qu'éducateur, ce premier ouvrage d'un triptyque marseillais, tiens encore Izzo, offre une passionnante plongée dans la réalité quotidienne de la Belle de Mai, relatée avec cette tchatche locale authentique. Pas d'artifice, pas de condescendance, des sentiments et des drames réels. J'attends avec impatience les deux prochains volumes, de plus édités par une sympathique maison d'édition marseillaise, Le Mot et le Reste, dont nous suivons les publications avec plaisir dans notre émission Au fil des pages. Allez sur leur site. Je rappelle les références, Pascal Escobar, Belle de Mai, édition Le Mot et le Reste, en 2023. Eh bien, chers amis, voilà les livres que nous souhaitions vous présenter, vous faire partager ce plaisir, cet intérêt. C'est fini pour aujourd'hui dans Au fil des pages. Nous nous retrouvons mercredi 11 octobre. Nous recevrons Thierry Maricourt pour son livre « Une rage de lire, le jeune Michel Ragon » paru aux éditions L'Échappée, encore une autre maison d'édition que nous aimons beaucoup. D'ici là, bonne lecture et écoutons tout simplement Léo Ferré, nous souhaiter ni Dieu ni maître. Frédéric.
La cigarette sans cravate. Sur l'aube des contrats et le remords des coups de jade. Avec la peur qui tend la patte, le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles qui tombe froide sur la dalle. Et cette rose sans pétale, cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette, pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces voix que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ce que la société rejette sous prétexte qu'il n'en peut être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile
de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu.
Lifourchon et tous
femmes libres,
femmes qui se libèrent,
femmes qui prennent la parole,
femmes qui témoignent,
femmes qui créent,
femmes qui se révoltent,
femmes qui luttent,
ces femmes libres sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime les femmes, ensemble, ensemble libérons-nous. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves.
Ces femmes libres sur Radio Libertaire.
Bonsoir à toutes et tous, 32e émission de cette année 2023. Alors on compte pas depuis 1986 quand l'émission a démarré, mais en tout cas pour cette année, on a fait une grande pause à l'été, puis on a repris début septembre. Donc une émission féministe et anarchiste pour combattre le patriarcat, le capitalisme, les religions, tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous exploitent, nous discriminent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour 2 heures d'antenne de l'émission Femmes Libres. Radio Libertaire, c'est la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste, avec Sylvie à la régie. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Hélène.
Voilà, et pour nous suivre, alors c'est tous les mercredis entre 18h30 et 20h30, et pour nous suivre, c'est émission trait-d'union-femmes-libres.blogspot.com. On peut réécouter l'émission, avoir le programme, mais aussi on peut nous suivre sur Facebook et Miss Cloud. L'émission ce soir est dédiée à Pinar Selek. Solidarité pour qu'elle soit définitivement libre, donc acquittée, après son 5e procès. Son 5e procès se tiendra vendredi 29 septembre. Et sa réponse à elle, c'est la publication d'un livre, Le chaudron militaire turc. Ce livre-là est une reprise d'une étude qu'elle avait faite. Et c'était aussi pour cette étude qu'elle est harcelée par la justice. Donc Pinar Selek, persiste et signe. Nous sommes avec elle ce soir. Je pense que Sandrine et Nadia et Feriel aussi, et Sylvie aussi.
Absolument.
Voilà. Alors,
peut-être préciser que pour avoir des informations, on peut aller sur le site Pinard Select, tout attaché, je crois.
Oui, c'est ça.
Donc, pour avoir toutes les informations, puisqu'il va y avoir le...
En tapant Pinard Select,
PinardSelect.fr, on a les informations.
Voilà. Et de toute façon, en tapant son nom, on a plein d'infos. Hein, voilà. J'étais avec elle hier soir pour la présentation du chaudron militaire turc. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est toujours aussi combattante. Ça, c'est évident. Mais elle est très inquiète de la situation mondiale, pas que de la Turquie, mais évidemment du côté des Arméniens, du côté des Syriens, du côté, enfin, partout, et de toutes les guerres qu'il peut y avoir, que ce soit en Europe, ou que ce soit en Afrique, ou en Amérique du Sud. Elle est très inquiète de la militarisation de la société. Voilà. Alors, 3 ou 4 temps dans cette émission, on va dire 3, parce que je crois que le 4e, on n'aura pas le temps. D'abord, le festival Femmes en résistance à la misogynie, avec Sandrine Goldschmidt et...